Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Et alors ce soir, nous évoquons la lettre A comme adolescence. Et nous allons nous intéresser essentiellement à la visibilité, à la vie sociale et à la vie secrète finalement des teenagers, des jeunes sur les réseaux sociaux à partir d'un ouvrage signé Nancy Jo Sals, publié récemment en anglais chez Knopf, et qui s'intitule American Girls, les réseaux sociaux et la vie secrète des teenagers. Alors, dans ce livre, qui fait beaucoup parler de lui aux États-Unis, Nancy Jo Sals, à partir d'un grand nombre d'entretiens avec des jeunes filles, souvent âgées des 13 ans, de 13 à 19 ans, et qu'elle a interviewées dans plus d'une dizaine d'États américains, elle raconte comment leur vie a évolué à travers les selfies, à travers les applications de rencontres. Les jeunes filles de cet âge vivent, et elle le dirait presque vivait intégralement, je la cite, sur leur smartphone. Alors elle s'intéresse à leur relation amoureuse, y compris au cinéma porno, notamment dans le dialogue avec les garçons. Elle s'intéresse aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer, au dialogue politique. Elle montre aussi comment, dans un certain nombre de registres, Internet a profondément modifié, notamment les réseaux sociaux et les messageries instantanées, a profondément modifié leur vie. Alors on va évoquer et discuter de ces différents sujets avec ce soir Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, Anaïs Ginori de La Repubblica, Olivier Tesquet de Télérama et Jean-Baptiste Souffron de Technicart. Les jeunes et les réseaux sociaux, ça vous inspire quoi, à la fois par rapport à ce que vous connaissez de vos propres enfants ou neveux ou cousins, et comment est-ce que vous réagissez, Anaïs Ginori peut-être, pour commencer?
Oui, c'est vrai que c'est assez secret, dans le sens où une fois que on a 12 ou 13 ans et on a finalement le téléphone et l'accès à Internet, les parents perdent totalement le contrôle. Alors après, on peut éventuellement essayer de surveiller, de contrôler, mais c'est un pari complètement fou et perdu d'avance. Donc, en tout cas, ce qu'on observe, et c'est moi en tant que parent, mais aussi comme journaliste, je vois que tout se déroule sur Internet, mais vraiment, même une relation commence sur Internet, se déroule sur Internet et finit sur Internet. Enfin, sur Internet, quand je dis sur Internet, c'est
sur
messagerie.
Sur réseau social, sur Messenger, sur WhatsApp, voilà, etc.
C'est surtout sur les messageries, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Et on peut vraiment presque ne pas se rencontrer, ou même quand ils se rencontrent, ne pas aborder certaines questions qui ne se font que à travers ce genre de communication. Et c'est vrai que même souvent, une approche sexuelle est de ce type. Elle est donc ce que dans la vie, jusqu'à une génération, c'était ça se passait
dans une discothèque, dans un café, dans
maintenant,
un
maintenant c'est vraiment Instagram, Snapchat, WhatsApp, et il y a aussi justement ce sexting avec des
donc non pas un texto mais non, un texto à caractère sexuel, notamment sur Snapchat,
oui, qui devient pour certains et certaines ça peut être aussi choquant, compliqué à gérer, subi d'une manière aussi pas toujours heureuse, donc c'est un sujet fort aussi à affronter.
Jean-Baptiste Souffron.
Et parfaitement, c'est souvent très difficile parce qu'ils sont sous la double dictature, d'une part de la transparence généralisée et d'autre part de l'effet de réseau qui fait que les modèles qu'on leur imposait autrefois, le modèle Hockey Podium, aujourd'hui joue 10 000 fois plus fort et 10 000 fois plus violemment sur Internet. Mais pour autant, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, les ados et les post-ados ont l'air de réussir à s'en emparer et à apprivoiser cette nouvelle façon de fonctionner.
Sans protéger.
Moi, j'ai l'impression qu'ils le font d'abord par la meilleure compréhension et sans doute par plus d'humour. La meilleure compréhension, c'est cette jeune fille qui était devenue une Insta-modèle, une Australienne. Elle posait des photos d'elle-même sur Instagram où elle était très jolie, où elle dévoilait un corps très jeune, etc. Et elle avait des millions de followers. Et puis un jour, elle a craqué. Elle a dit « j'en ai marre. La vérité, c'est que je suis pas comme ça. Je suis pas si bien faite ni rien. Je fais 150 photos à la suite et je finis par poster la meilleure. Et c'est comme ça que je construis mes followers. Et j'en ai marre de vendre des marques. Et voilà, il faut que vous sachiez que c'est pas vrai. » Et l'autre, moi, que j'ai toujours trouvé très intéressant depuis plusieurs années et dont le succès ne se dément pas. C'est le fameux compte Instagram Rich Kids of Instagram, où finalement les jeunes se saisissent et se moquent des enfants de riches sur Instagram qui étalent leur nouvelle voiture, leur voyage, leur richesse à la face de gens qui sont souvent beaucoup plus pauvres qu'eux. Et ils s'en sortent par l'humour.
Dans son livre, Nancy Jossal, ça porte un diagnostic très, très sévère, très inquiétant. Alors peut-être est-ce celui d'une adulte qui a du mal à suivre ses enfants, mais dans American Girls, en tout cas, elle s'inquiète et elle est très inquiète sur ce qui est en train de se passer, Olivier Tesquet.
Oui, mais parce que je crois qu'il y a un hiatus culturel qui est en train de se produire, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle grammaire qui se met en place chez ces adolescents, qui redéfinissent à la fois des moyens de communiquer, c'est-à-dire qu'on passe de la communication verbale à la communication non-verbale, on envoie des émojis, on sort d'une société de l'écrit pour être plus dans une société de l'image qui en plus est instantanée, donc échappe forcément de plus en plus aux adultes et aux parents. Et au-delà de ça, il y a une redéfinition même de la notion que nous on aurait de vie privée, par exemple. C'est-à-dire que la notion de vie privée, qui est une notion assez récente de droit américain, qui finalement le droit d'être laissé tranquille, les adolescents réécrivent leur propre modalité de cette vie privée. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Dana Boyd qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui notamment évoque des espaces semi-publics, c'est-à-dire que les adolescents créent des espèces de bulles presque dans lesquelles ils communiquent entre eux selon des modalités qu'ils ont eux-mêmes établies. Et donc forcément, les adultes et les parents sont assez démunis face à ces évolutions.
Donc vous seriez moins inquiet, plus optimiste vous-même?
Non, je pense que c'est l'évolution assez naturel des choses et des usages.
Qui est ni bonne ni mauvaise en soi, ça va dépendre de comment...
Ni bonne ni mauvaise, c'est tout dépend ce qu'on en fait. Ce qui est sûr que dans une perception d'adulte, c'est nécessairement inquiétant parce que ça leur échappe. Et en plus, d'un point de vue de parent, ce que je ne suis pas, il y a forcément l'idée qu'on a plus justement le contrôle sur sa progéniture qui tout à coup s'autonomise à la fois à travers les outils et aussi à travers les usages. Donc c'est doublement inquiétant.
En tant que parent, Emmanuel Paquette veut réagir, journaliste à l'Express.
Non, mais c'est vrai qu'il faut revenir aussi aux usages et aux outils. Il faut voir que les premiers smartphones permettant d'aller sur Internet sont arrivés en 2007, avec l'avènement de l'iPhone. Aujourd'hui, il se trouve qu'avec des équipementiers chinois qui arrivent, on peut avoir un smartphone à un prix relativement abordable, notamment pour cette génération-là. Si on ajoute à cela des forfaits pour accéder à Internet aussi abordables, le fait que aujourd'hui, le seuil pour accéder à ce type de technologie est relativement bas. En plus, vous ajoutez les outils de communication qui, eux, sont gratuits.
WhatsApp, Messenger ou Snapchat.
Donc ça devient accessible maintenant à des adolescents qui, avant, ne pouvaient pas. Avant, il fallait passer par l'ordinateur familial qui était dans le salon ou dans le bureau, donc avec les parents derrière ou autour. Maintenant, c'est fini via les smartphones. Les enfants, les adolescents peuvent l'utiliser dans leur chambre, peuvent l'utiliser à l'extérieur. Donc, la notion de contrôle des parents s'efface totalement avec l'outil et puis surtout la facilité d'accès en fait à ces outils puisqu'ils deviennent peu onéreux. Et puis de l'autre côté, on voit aussi qu'il y a un phénomène de rattrapage au niveau des hommes politiques puisque des lois partout sont votées sur la planète pour essayer de lutter ce qu'on appelle le revenge porn, le fait qu'à un moment donné, quand il y a une rupture adolescente entre une fille et un garçon, de temps à autre, pas tout le temps, mais de temps à autre, l'homme ou la fille peut se venger en diffusant des photos intimes très largement sur Internet et ça peut vraiment nuire à des jeunes. Certains peuvent être poussés au suicide. Donc de ce point de vue-là, il y a des cas récents en France. C'est pas la majorité, loin s'en faut. Mais il se trouve que ces abus-là commencent à être punis par la loi, ce qui n'était pas le cas précédemment.
Et souvent retirés immédiatement par Facebook ou par Instagram. Mais
quand c'est possible, ouais. Mais effectivement, de temps en temps, ça peut être reposté et donc ça peut recommencer et affecter énormément des adolescents.
Un mot peut-être sur le selfie qui est dans un monde de moins en moins selfless. On est présent, alors c'est vrai d'Instagram évidemment, c'est vrai plus globalement de Facebook, de Messenger, etc. Comme si c'était une sorte de nouvelle culture, une omniprésence. Enfin, ces pages Facebook où on a une succession, un continu pratiquement de photos de celui qui possède le compte et de ses amis. Jean-Baptiste Souffrant.
Ce qui est incroyable, c'est la vitesse à laquelle le selfie est devenu un genre à part entière, avec ses sous-catégories. Il faut bien voir que avant, finalement, ça a commencé à apparaître avec Instagram. Puis, très rapidement, les adolescents ont eu envie d'avoir un mécanisme qui leur permet d'envoyer des photos qui s'auto-effacent, notamment pour pouvoir s'envoyer des sextos, des choses comme ça.
Donc là, c'est Snapchat.
C'est Snapchat qui apparaît. Aujourd'hui, ils aiment rajouter des emojis, les modifier. C'est des choses qui existaient déjà dans d'autres pays. Les Japonais
notamment
connaissent
en Corée du Sud, au Japon.
En Japon, en Corée du Sud, les pulikula qui permettent aux jeunes depuis les années 80 de venir au cours d'une soirée. Mais ça se présente plus sous la forme d'une borne comme...
Photomaton.
C'est un photomaton, vous prenez en photo avec votre fiancé ou votre... Et puis vous rajoutez des petits cœurs, des petits soleils, ça fait des effets, etc. Et En fait, ces différentes formes ont commencé à se mixer les unes les autres et on continue à en voir arriver tout le temps. Tout le temps. Parfois même, y compris des choses qui sont assez...
C'est quand même un montre très auto-centré, très self-centered, pour le dire en anglais.
Pour vous montrer à quel point ça peut même être extrêmement auto-centré, voire une espèce de sous-culture, les gens ont oublié, mais au moment où Instagram apparaît, quasiment en même temps, était apparu Charoulette. Je ne sais pas si les gens se rappellent de Charoulette, mais qui permettait comme ça de cliquer et de voir des inconnus qui étaient en train de vous parler ou de vous montrer des portraits d'eux-mêmes, etc.
Parfois sexuels, mais cela étant...
Il y a quand même une connotation.
Non, mais c'était rare. Et
cela étant, ça n'a pas beaucoup... Le modèle économique a été difficile à trouver. Aujourd'hui, c'est un site qui a disparu quasiment.
Mais ça a eu une grande influence, en réalité.
Olivier Tesquet ?
Non, moi, ce qui me surprend dans le selfie, c'est qu'on est typiquement dans un moyen d'expression ou une nouvelle grammaire qui a été largement colonisée par les adolescents et qui ensuite, par un effet de tache d'huile s'est propagé bien au-delà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez plus un homme.
Un journaliste de Télérama, il fait des selfies.
Moi, je suis encore considéré comme un jeune, donc ça, je suis à l'ultime frontière.
Ça c'est grâce à la casquette N.
Aujourd'hui, on n'a plus une personnalité, un homme politique, une star, etc., qui se plie pas aussi à ces codes-là. Donc, il y a un renversement total de la prescription où normalement c'est un usage qu'on impose et puis finalement après les gens s'en saisissent. Là, c'est la foule qui a fini par imposer cet usage, les adolescents étant les premiers d'entre eux, et qui ensuite a été récupéré par plein d'autres gens, ce qui prouve que cette nouvelle grammaire peut aussi être disséminée et pas forcément aussi inquiétante que ça.
Pour terminer sur la vie sociale, la vie secrète des adolescents sur les réseaux sociaux, on observe aussi une évolution très significative. Il y a quelques années, on était sur Internet, on lisait des sites, on suivait des blogs. Peu à peu, on a basculé sur les réseaux sociaux, donc avec la victoire finalement que peu prédisait, mais malgré tout, de Facebook et de ses alliés, à savoir Instagram d'abord, qui appartient à Facebook. Et puis, peu à peu, on a une évolution qui se passe aujourd'hui sur les messageries instantanées. Alors, on est encore sur Facebook à travers WhatsApp, on l'est à travers Messenger, mais il y a aussi Snapchat. Comme si les contenus eux-mêmes changeaient et se passait quelque chose. C'est une troisième révolution, si on peut dire, Emmanuel Paquette, sur ces secteurs.
Oui, alors, il faut voir que tous ces outils de communication ou même des réseaux sociaux, c'est une forme de gargantua numérique. Ils ont besoin d'être nourris et nourris par l'attention des gens qui s'y connectent. Donc cette nourriture, ça vient de photos, ça vient de posts, mais pour faire en sorte que les gens reviennent, il faut aussi, dans les moments de calme, entre guillemets, leur apporter quelque chose. Donc l'information peut être un moyen, c'est ce que les Américains appellent le stickiness, c'est le fait de coller à ces réseaux sociaux et ne plus s'en détacher.
Et c'est là où on voit que sur Snapchat aujourd'hui, grâce à Discover, qui est une forme de complément de Snapchat, on peut lire des articles de presse, on peut avoir dans des constructions très spécifiques, une création très particulière, faite par CNN, faite par un certain nombre d'hommes politiques ou de médias, mais c'est comme si les messageries devenaient des médias eux aussi.
Des médias et surtout qui sont recommandés par ses amis ou ses proches, qui sont likés, recommandés et donc qui alimentent le fil d'actualité qui ne cesse de s'enrichir perpétuellement pour attirer l'attention.
Olivier Tesquet.
Et ça va crescendo parce qu'on a de plus en plus de médias qui développent des chatbots, de nouveau, des petits
donc programmes, des petits robots
avec qui on peut dialoguer, interagir
automatiquement,
sur Messenger. Ouais. Alors, avec des réussites diverses, on va dire, parce que j'ai été obligé de bloquer celui du Wall Street Journal qui me harcelait en pleine nuit en m'envoyant les cours du Nasdaq, ce qui était proprement insoutenable et exaspérant. Mais ça montre bien qu'on est dans une logique de silo. Moi, je me souviens, il y avait une étude qui avait été menée dans un pays asiatique, je ne saurais plus me souvenir lequel, mais qui demandait finalement à la population combien de personnes avaient accès à Internet et combien de personnes avaient accès à Facebook. Et on avait eu cette drôle de surprise de voir que plus de personnes disait pouvoir se connecter à Facebook que de personnes qui se connectaient à Internet. Donc par un effet de superposition, Facebook devenait Internet, qui est du coup un silo duquel on sort jamais, et à travers ces outils qui sont développés, c'est-à-dire qu'on incite l'internaute à ne plus quitter la plateforme où il pourra trouver tout ce qu'il a envie, que ce soit des informations, que ce soit s'il a besoin de réserver des billets pour un concert ou je ne sais quoi. Et donc on a un phénomène d'enclos comme ça, numérique, qui est en train de se créer.
Je renvoie à la lecture de ce livre de Nancy Jo Sells, non encore traduit et publié chez Knopf, American Girls, la vie sociale et la vie secrète des teenagers. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et référents sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power. Vous pouvez également vous abonner au podcast L'Alphabet Numérique sur le site franceculture.fr. Et pour les anciens mots de cet alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com.